Bonsoir et bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 1er au 7 janvier 2026. C'est le premier bulletin de l'année, c'est également le premier du mois, donc il est en accès libre. Je vous rappelle qu'il y en a 4 dans le mois et que si vous voulez accéder au suivant, vous pouvez rejoindre la chaîne, il est au deuxième palier de souscription. Nous commençons avec le Moyen-Orient, comme d'habitude. Nous commençons avec la Turquie, où le président turc Erdogan a réclamé la réintégration de la Turquie donc dans le programme des avions F-35 américains, en soulignant que cette étape était importante et nécessaire pour renforcer les relations avec les États-Unis et pour la défense de l'OTAN. Dans une interview accordée à Bloomberg, Erdogan a estimé que l'exclusion de la Turquie du programme, en raison de l'achat par Ankara d'équipements militaires russes, avait été injuste. Et il a souligné que la question avait été discutée directement avec le président américain Donald Trump. En fait, en effet, vous vous souviendrez que les Américains avaient expulsé la Turquie du programme F-35 parce que Erdogan avait acheté des S-400 russes. Le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'un accord était imminent malgré les avertissements d'Israël selon lesquels cette vente menacerait sa sécurité dans un contexte de tension croissante avec la Turquie, notamment en Syrie, je vous renvoie au précédent bulletin là-dessus. La Grèce, qui acquiert également le F-35, s'est jointe à Israël pour s'opposer à l'achat de cet avion par la Turquie en avertissant que cela modifierait l'équilibre des pouvoirs dans la région. Par ailleurs, la Turquie se prépare à établir sa propre installation de lancement spatial en construisant un site en Somalie afin de renforcer son indépendance dans l'industrie spatiale et devenir une passerelle alternative vers l'espace. La stratégie d'accès indépendant au programme spatial national turc a donné le feu vert à la construction de ce site en Somalie. Le projet de site spatial a été annoncé par le président Erdogan et le ministre turc de l'Industrie et de la Technologie, Fatih Kassir, ensuite fournit des détails. Selon Yildiz, il est crucial de choisir un emplacement proche de l'équateur pour lancement des fusées, hein, comme pour la Guyane française ou la Floride et le Texas américain. Le projet permettrait à la Turquie de devenir l'un des pays disposant d'une infrastructure indépendante de lancement des satellites sous la coordination du ministère turc de l'industrie et la technologie. La Turquie entend par ailleurs développer des véhicules spatiaux afin d'assurer sa souveraineté dans les technologies spatiales critiques. Donc on a vraiment une... Après le complexe militaro-industriel, on a une Turquie extrêmement active dans le domaine désormais du spatial. On va en Israël où à l'issue de discussions entre le nouveau gouvernement syrien et donc Israël qui ont été menées à Paris sous l'égide des États-Unis. Les États-Unis ont annoncé mardi la création d'une structure commune entre les deux pays, donc Israël et la Syrie, qui vise à partager du renseignement et à faire baisser les tensions militaires et diplomatiques. Cette cellule de communication dédiée doit être supervisée par les Américains. On passe aux heurts et aux agitations en Iran, où des troubles ont éclaté à nouveau lundi 6 janvier au Grand Bazar de Téhéran, qui est le poumon économique du pays. Ainsi que dans de nombreuses villes de province, certaines sont annoncées sur les réseaux sociaux comme étant carrément tombées aux mains des manifestants. C'est le cas de la petite ville d'Abdanan, notamment, située à la frontière avec l'Irak. Et ce sont les villes kurdes qui sont les plus menacées, même si de plus en plus les manifestations s'étendent à tout le pays. Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé mercredi 7 janvier les forces de l'ordre à ne prendre aucune mesure à l'encontre des manifestants, tout en faisant une claire distinction avec les émeutiers, selon les propos rapportés par l'agence de presse MER. Alors, il faut savoir qu'à mon avis, le régime va tomber. Voilà, vous savez que j'avais eu des hésitations là-dessus, parce que je disais j'attends de voir dans quel état sont les pazaranes, etc. Là, j'ai quand même l'impression qu'on franchit un cap. En plus, la population, c'est pas juste des étudiants cette fois-ci maintenant, c'est véritablement la classe moyenne qui semble en beaucoup d'endroits s'énerver. Et souvent dans des endroits qui sont même éloignés des grandes villes, qui sont des endroits qui étaient traditionnellement, où le pouvoir traditionnellement était soutenu. Donc il y a véritablement de l'agitation. Et comme il y a 6 mois, je vous avais dit qu'à mon avis, le scénario le plus probable, c'était que dans les mois qui viendraient, il y aurait à nouveau une contestation sociale et que le régime tomberait là-dessus, quand je vois arriver la contestation sociale, forcément j'ai envie de vous dire, c'est en train d'arriver. Surtout que ce que je suggérais dans cette émission, c'était le fait que vraisemblablement on aurait un Massoud Pezeshkian, donc qui représente le pouvoir civil en fait. Hein. Parce qu'en fait, si vous regardez la constitution de l'Iran, c'est assez simple. Vous avez un pouvoir civil classique, et il est doublé par toutes les institutions de la Révolution. Le corps des gardiens de la Révolution, le Conseil des gardiens de la Constitution et le guide de la Révolution. Voilà. Et quelques autres organes. C'est l'équivalent, si vous prenez, en fait, dans l'Union soviétique, vous avez toute la structure civile normale, et à côté, vous aviez tout l'appareil du parti. Mais le pouvoir, il était en réalité dans le parti. Ben là, c'est pareil, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez des organes normaux qui sont ceux d'une démocratie normale, mais en réalité, tout ceci est doublé par une espèce de grosse structure parasite qui surplombe le tout et qui a le vrai pouvoir. Donc je pense que si révolution il y a, ça sera un petit peu sur le mode de ce qui s'était passé en URSS, où vous aviez Boris Yeltsin qui avait décidé de quitter le Parti communiste et ensuite de foutre les communistes dehors du pouvoir, grosso modo. Hein. Donc je pense que c'est ce qui pourrait se passer, et notamment avec un Massoud Pezeshkian qui est un peu l'équivalent de ce qu'était Eltsine. Eltsine, c'était le président de la Fédération de Russie à l'intérieur, enfin de la République Socialiste Fédérative de Russie, à l'intérieur de l'Union Soviétique, qui avait tout fait sauter. Massoud Pezeshkian, c'est le président civil à l'intérieur du pays, mais qui est soumis à l'appareil impérial, on va dire, même s'il n'y a pas de, République séparée à l'intérieur. Mais voilà, c'est un petit peu la même structure. Donc à mon avis, on va voir, Pezeshkian peut s'appuyer sur la contestation populaire, comme il est perçu comme un réformiste en plus, pas un révolutionnaire, mais un réformiste, pour casser le pouvoir des mollahs. Ça peut arriver surtout au gré des circonstances. Et voilà, le fait qu'il commence à appeler les forces de l'ordre à ne pas tirer sur la foule, etc., ça peut évoluer vers ça. La principale inconnue qui reste, naturellement, c'est quel est l'état de force des Pasdaran qui leur reste pour faire seule la répression. Et qu'est-ce que les Russes éventuellement pourraient mobiliser comme moyen pour permettre au moins de maintenir le régime dans un réduit. Alors j'écarte cette question pour l'instant, j'y reviendrai probablement dans une prochaine émission. En ce qui concerne les Pasdaran, ben là, il y a eu ces derniers jours, semble-t-il, des frappes de forces spéciales américaines contre des milices iraniennes en Irak. Vous savez, je vous avais dit aussi que, à mon avis, s'il fallait achever les Pasdaran d'une certaine manière, après tout ce qui s'est passé avec le Hezbollah, la Syrie, etc., ce serait en Irak. Bon, là-bas, je pensais plutôt à un soulèvement local irakien, mais les États-Unis peuvent essayer de forcer le truc en allant scolter justement avec les relais du pouvoir iranien en Irak pour achever de fatiguer les Pasdaran et en tout cas les occuper et donc les empêcher de faire la répression à domicile. On va voir si ça se produit. En tout cas, mardi, 6 janvier, dans un communiqué, le Conseil de défense iranien, organe créé après la guerre de juin 2025 entre l'Iran et l'Israël, n'exclut plus le recours à des frappes préventives contre les ennemis de Téhéran. Dans le cadre de la légitime défense, la République islamique d'Iran ne se limite pas à une réaction postérieure à l'action de l'ennemi, a-t-on lu dans le communiqué. Il peut y avoir une tentation de la part du pouvoir iranien des Mollahs et des gardiens de la Révolution de se lancer dans une escalade contre Israël pour essayer de ressouder le peuple. Il semble qu'Israël ait déjà repoussé ses propres opérations qui étaient prévues de commencer il y a quelques jours, pour pas justement casser l'élan de cet élan populaire, ce qui à mon avis est une sage tactique. Maintenant, si c'est le pouvoir iranien qui attaque directement Israël, je pense qu'Israël ripostera. Si l'Iran chute, est-ce qu'il pourrait y avoir une séparation, un démembrement? Alors je suis allé faire une petite vérification. C'est essentiellement dans la zone kurde, dans le nord-ouest, qu'il y a le mouvement séparatiste le plus organisé. Il y a des mouvements également du côté azéri, du côté baloutch, mais ça représente vraiment peu de personnes. Hein. Les azéris un peu plus. Les azéris sont nombreux, mais le séparatisme n'est pas très très revendiqué dans cette part de la population. C'est beaucoup plus fort chez les Kurdes. Mais ça pourrait être agité éventuellement si jamais, par exemple, l'Azerbaïdjan notamment, voulait tirer parti d'un effondrement. Mais ça serait vraiment une fois que le régime est tombé à ce moment-là qu'il pourrait y avoir ça. S'il y a de grosses difficultés intérieures iraniennes, certains pourraient tenter de démembrer tout ça. Les Afghans aussi pourraient essayer, mais pour l'instant, on n'en est pas là. En tout cas, on a appris via l'Express qui reprend en fait quelque chose qui a été publié dans le Times britannique, des informations comme quoi le guide de la République islamique, Ali Khamenei, prévoirait de quitter le pays si les forces de sécurité commençaient à désobéir aux ordres de répression contre les manifestants. Il s'agirait d'un plan B qui concerne Khamenei et son cercle restreint de proches collaborateurs et de membres de la famille. Au total, une vingtaine de personnes pourraient l'accompagner dans son éventuelle fuite. Moyen-Orient toujours, des avions de guerre britanniques et français ont mené une frappe aérienne dans le centre de la Syrie sur une installation souterraine où des membres du groupe État islamique seraient soupçonnés d'avoir stocké des armes et des explosifs. C'est ce qu'a déclaré le ministère britannique de la Défense dimanche 3 janvier. Les frappes ont eu lieu samedi soir sur la structure située dans les montagnes juste au nord de la ville historique de Palmyre, dans la province de Homs, selon le communiqué du ministère. Cette installation avait été occupée par Daesh, probablement pour stocker des armes et des explosifs. La zone autour de l'installation est dépourvue de toute habitation civile, ajoute le communiqué. Il semble, d'après les analystes militaires que j'ai lus, que ce soit une évolution dans la façon dont, dont les Britanniques et les Français frappent, que d'habitude on n'aurait pas frappé comme ça. Alors j'ai pas le détail, il faudra que j'y revienne, mais voilà. Semble-t-il que l'information était plus significative que simplement le fait d'avoir bombardé l'État islamique. Les forces aériennes israéliennes ont encore frappé de nombreuses zones dans le sud du Liban dans la nuit de lundi à mardi, y compris des cibles dans la troisième ville du pays, Sidon. Les zones ont été évacuées après l'avertissement israélien qui avait été indiqué, notamment sur le réseau social X, et aucune victime n'aurait été signalée lors de ces frappes. Le gouvernement doit discuter du désarmement du Hezbollah lors d'une réunion jeudi. Hein, vous savez, j'en ai parlé lors de plusieurs émissions précédentes. C'est comme pour le Hamas, c'est assez difficile de faire renoncer à ses armements au Hezbollah, et donc Israël continue de maintenir la pression. On part au Yémen, où la situation est assez fluide en ce moment. Alors je rajoute un petit élément de contexte. Depuis la guerre civile au Yémen, qui a commencé en même temps que le printemps arabe, il y a trois grandes factions et quelques autres au Yémen. Il y a les Houthis, ce qu'on appelle les Houthis, Ansar Allah, qui contrôle la capitale et qui contrôle en fait l'essentiel du pays, puisqu'il y a 60 ou 65% de la population qui vit sous leur contrôle, qui eux sont soutenus par l'Iran. Ensuite, vous avez le gouvernement qui est internationalement reconnu, qui lui est basé à Aden, qui est la capitale provisoire, qui est soutenu principalement par l'Arabie Saoudite, et qui inclut des forces yéménites, des milices tribales, etc. Donc ça, c'est le conseil de leadership présidentiel. Et enfin, il y a le conseil de transition du Sud, qui eux sont les séparatistes du Sud, qui aspirent à l'indépendance du Sud du Yémen, qui était l'ancien État sud-yéménite avant 1990. Ensuite, les États avaient fusionné. Et eux, ils sont soutenus par les Émirats arabes unis. Il y a eu ces derniers jours un retour d'action et de comment dire de violence dans la région, avec notamment une tentative, semble-t-il, de la part des Émirats arabes unis de violer de remettre en cause le statu quo en réactivant donc un assaut de la part des attaques de la part du Conseil de transition du Sud. L'Arabie Saoudite, pour soutenir le gouvernement le parti du leadership présidentiel, donc le conseil du leadership présidentiel, le gouvernement international, a bombardé les alliés des Émirats Arabes Unis. Donc les Émirats Arabes Unis ont annoncé qu'ils allaient retirer leurs propres forces. Et avec l'affaiblissement, tout ceci est probablement dû notamment à l'affaiblissement de l'Iran et des frappes sur les Houthis, et donc les choses bougent. L'Arabie Saoudite soupçonne le chef du Conseil de transition du Sud, donc les séparatistes, soutenus par les Émirats arabes unis jusqu'à peu, de chercher à mobiliser ses forces et ses équipements militaires pour aggraver le conflit. Il a refusé de monter dans l'avion pour Riyad mardi 6 janvier au soir pour participer à la discussion. Il est désormais introuvable. La coalition menée par l'Arabie Saoudite au Yémen a donc lancé ce mercredi 7 janvier des frappes contre le sud du pays, avec pour objectif le fief du chef des forces sécessionnistes. Voilà où on en est. Il semble que, grâce à la fuite de ce chef des forces sécessionnistes, ces forces sécessionnistes soient en train de s'effondrer. Et donc, il n'est pas impossible que l'Arabie Saoudite parvienne à refaire l'unité du reste du Yémen, en tout cas, et peut-être avant de se retourner à nouveau vers la rébellion Houthi. En tout cas, ça fragilise naturellement la position de l'Iran dans la région. Surtout que de l'autre côté du détroit qui mène à la mer Rouge, il y a la question du Somaliland. Somaliland qui désormais a été reconnu comme État par Israël. et les États-Unis ont défendu au Conseil de sécurité de l'ONU le droit d'Israël à reconnaître le Somaliland en établissant un parallèle avec la reconnaissance de la Palestine. Cette comparaison a été formellement rejetée par la Slovénie, qui préside le Conseil, en tout cas qui le présidait pour le mois de décembre, et son ambassadeur a rappelé que la Palestine est reconnue sur la base du droit à l'autodétermination, tandis que le Somaliland fait partie d'un État membre de l'ONU. Donc une telle reconnaissance violerait l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies qui protège l'intégrité territoriale des États. Le problème étant que, sur le plan moral, d'une certaine manière, ben, le Somaliland, à l'intérieur de la Somalie, c'est un État de facto indépendant, qui est une démocratie fonctionnelle depuis 35 ans. Je crois qu'ils ont 8 élections libres. Et donc ça fonctionne, le Somaliland. Et simplement, on leur refuse leur indépendance, on les oblige à rester avec le reste qui est totalement un État totalement faillite, au prétexte que intégrité territoriale des États et charte des Nations Unies. Donc c'est vrai que là aussi, il y a quand même une injustice à régler. En tout cas, c'est un avantage pour les États-Unis de éventuellement, à terme, de reconnaître le Somaliland. Parce qu'entre ça et ce que fait l'Arabie Saoudite dans le, avec une éventuelle reprise du contrôle du Yémen, ben ça pourrait permettre aux États-Unis de reprendre le contrôle de ces détroits. On continue en Afrique, où la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo ne semble-t-il pas améliorée depuis la fin de l'année dernière, depuis la fin 2025. Le mois de décembre, j'en avais parlé ici, a été marqué par une nouvelle offensive du groupe armé AFC-M23, soutenue par le Rwanda, ainsi que par de violents affrontements avec l'armée congolaise. Pour l'application de l'accord de paix, il y a un baromètre qui a été mis en œuvre, une initiative indépendante qui est dédiée au suivi et à l'évaluation des accords de paix en Afrique, et ce baromètre semble indiquer que le processus s'essouffle. Donc encore une fois, une paix faite par Donald Trump qui fonctionne pas très bien. Au Burkina Faso, il semble que Ibrahim Traoré il fait face à une tentative de déstabilisation, voire de coup d'État en interne. Donc le capitaine putschiste lui-même donc serait menacé par certains gradés qui voudraient le putscher à son tour. C'est la chaîne de la vie. Pour l'instant, il a résisté, il a procédé, semble-t-il, à des arrestations. On passe ensuite au Venezuela et la frappe impressionnante de Donald Trump au Venezuela. Alors, j'en ai parlé dans ma dernière émission, donc je reviens pas en détail. Je vais faire quelques petites informations qui ont été mentionnées par Donald Trump. Semble-t-il que les États-Unis... d'abord, le régime n'est pas tombé, ce qui m'étonne pas trop, parce que si les gens se souviennent des émissions que j'avais fait lors de la dernière élection présidentielle, qui avait vu le maintien de Maduro, même si c'était totalement frauduleux à la tête de l'État... je vous avais dit que pour moi, le Venezuela était en phase d'ancien régime, mais ancien régime pas mûr pour une révolution encore, puisque malgré les manifestations, les forces de sécurité sont restées fidèles à Maduro, et depuis, elles n'ont pas eu de raison de le lâcher. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous enlevez la tête, vous coupez la tête d'un ancien régime qui n'est pas sur le point de s'effondrer comme en Iran, par exemple? Eh bien, semble-t-il, il se maintient, c'est-à-dire que le truc reste en dessous, voilà, et éventuellement, on remplace le type qui est censé le diriger. Et donc, semble-t-il que la vice-présidente a réussi à prendre le pouvoir. Les forces de sécurité continuent de persécuter les opposants, les prisonniers politiques ne sont pas libérés, et semble-t-il que les Américains ne veulent pas, pour l'instant, faire tout s'effondrer, notamment parce qu'ils savent sans doute qu'il faudrait à ce moment-là aller sur place et que ça serait beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc que font les Américains? Ils essaient de dealer avec les gens en place en les menaçant. Et voilà où on en est à ce propos-là. Et donc, après avoir procédé donc à la capture de Maduro, les États-Unis semblent en revanche bien faire main basse sur le pétrole vénézuélien. Donald Trump a déclaré sur ses réseaux sociaux qu'un accord avait été conclu pour la livraison de barils de pétrole aux États-Unis. Il a dit, je cite, « Je suis ravi d'annoncer que les autorités par intérim du Venezuela, donc celles qui succèdent à Maduro, vont remettre aux États-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction et de haute qualité. Ce pétrole sera vendu au prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi, président des États-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des États-Unis. » Ça fait vraiment penser à ce que faisait César pendant la guerre des Gaules, à récupérer le butin et ensuite à s'en servir pour son clientélisme politique à Rome. On ne sait pas encore très clairement quelle forme prendra cette livraison ni sur quelle durée. En tout cas, il semble que c'est un don, un tribut, en fait, tout simplement de la part du Venezuela aux États-Unis. Et chose intéressante, je suis allé vérifier, la production annuelle, c'est un peu plus de 300 millions. Donc ça serait finalement entre 10 et quoi, et 15% de la production annuelle qui serait donnée tout simplement aux États-Unis. Sachant qu'elle a beaucoup baissé, puisque c'était, semble-t-il, 900 pardon, millions de barils il y a 15 ans. Mais avec le communisme chaviste, le manque d'investissement dans l'industrie d'extraction, etc., forcément, la production a baissé. Lundi dernier, le président américain se disait en colère après que Vladimir Poutine avait dénoncé une attaque de drones ukrainiens sur l'une de ses résidences, mais la CIA a démenti les accusations du Kremlin. Et Donald Trump a dit lui-même, je ne pense pas que cette frappe a eu lieu, en doutant que Kiev ait envoyé des drones effectivement sur la résidence de Poutine. Et nous avons eu tout à l'heure une exclamation de Donald Trump importante, à nouveau, ça semble être là, d'une certaine manière, la fin de la nouvelle séquence de négociations qui a totalement foiré parce que les Russes ont essayé de trouver un moyen de la dénoncer. Il a dit ceci sur Truth Social. Rappel pour tous les grands fans de l'OTAN qu'ils étaient à 2% de PIB et que la plupart d'entre eux ne payaient pas leurs factures jusqu'à ce que j'arrive. Les USA, follement payaient pour eux. J'ai respectueusement réussi à les faire monter à 5% de PIB et maintenant ils paient tout de suite. Tout le monde sait que cela n'aurait. Tout le monde disait que ça ne pouvait pas être fait, mais ça l'a été, parce que, au-delà de tout, ils sont tous mes amis. Sans mon implication, la Russie aurait toute l'Ukraine aujourd'hui. Rappelle aussi que j'ai géré tout seul la fin de 8 guerres, ce qui est un peu excessif. Et la Norvège, un membre de l'OTAN, a choisi de manière folle de ne pas m'accorder le prix Nobel de la paix. Mais cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est que j'ai sauvé des millions de vies. Et alors là, tout est en majuscule. La Russie et la Chine ont aucune peur de l'OTAN sans les États-Unis. Et je doute que l'OTAN soit ici, soit là pour nous si nous avions vraiment besoin d'eux. C'est un mensonge, puisqu'on a été là pour eux en 2001, hein, on ne s'est pas fait prier. Tout le monde a de la chance que j'ai rebâti notre armée lors de mon prochain mandat, et je continue de le faire. Nous serons toujours, c'est ce qui est important, nous serons toujours là pour l'OTAN, même s'ils ne seront pas là pour nous. Et ça, c'est important parce que, bon, à la fois c'est un peu méprisant pour l'OTAN, mais ça veut dire que ce n'est pas sous condition. La seule nation que la Chine et la Russie craignent et respectent, c'est les États-Unis reconstruits par Donald J. Trump. Et alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on a le sentiment, alors il faudra voir si ça se confirme, que Donald Trump entérine le fait que la Russie se détachera pas de la Chine. Alors, je suis peut-être un peu loin, mais c'est comme ça que je l'ai perçu en le lisant, puisque désormais il met les deux. Et tout ceci est lié naturellement à une actualité importante, puisque il y a l'affaire du pétrolier Bella 1 qui a été aujourd'hui arraisonné, sur laquelle je vais revenir dans un instant. D'abord, je soulignerai qu'un câble optique sous-marin reliant la Lituanie à la Lettonie a été endommagé et ça vient s'ajouter à la longue liste des câbles qui sont détruits. Les autorités lituaniennes ont confirmé à Vilnius qu'un câble optique sous-marin avait été endommagé sans provoquer cependant de perturbations immédiates. Mais il y en a vraiment eu plusieurs depuis le début de l'année dernière. Enfin, c'est de plus en plus souvent, quoi. Et justement, vous savez, c'est souvent fait par des espèces de navires un peu fantômes, et précisément, il y a l'affaire du pétrolier Bella One, alors Bella 1. Le mois dernier, les gardes-côtes américains ont tenté d'aborder et de saisir ce pétrolier alors qu'il se dirigeait vers le Venezuela, semble-t-il, pour charger du pétrole. Ce navire faisait partie de la flotte fantôme, la Shadow Fleet ou Dark Fleet, qui navigue sous un pavillon douteux, probablement guyanais, donc du Guyana, d'après certaines sources. Il n'était enregistré de manière valide nulle part et il était censé être vide. Il était sous sanction américaine depuis 2024, accusé par Washington de transporter du pétrole iranien illicite, finançant potentiellement des organisations terroristes comme le Hezbollah. L'équipage a refusé l'inspection, pris la fuite et en cours de route a peint un drapeau russe sur la coque, tout en changeant le nom du navire en Marinera. Le pétrolier a été rapidement réenregistré sous pavillon russe, ce qui a conduit Moscou à exiger que les États-Unis cessent toute poursuite. Et alors c'est là qu'on arrive sur des choses qui sont intéressantes. Puisque malgré cela, les gardes-côtes américains ont continué à traquer le navire à travers l'Atlantique, et tout l'Atlantique quand on voit les cartes. Selon le Wall Street Journal et CBS News, la Russie a récemment déployé un sous-marin et plusieurs navires de guerre pour escorter le Marinera et le protéger d'une saisie. Donc on se demandait toujours qu'est-ce que transportait ce tanker. Des sources du renseignement américain, qui ont été citées notamment par CBS, évoquaient l'hypothèse, qui n'a pas été confirmée, de la présence à bord de personnel vénézuélien armé ou même de systèmes de défense antiaérienne d'époque soviétique peut-être, qui auraient été discutés et contractés avant la fin de la chute de Maduro. Et on parle aussi éventuellement de matériel de renseignement, voire de choses plus sensibles, hein, et peut-être même de nouvelles crises des missiles avec l'alternative de fourniture d'armes dangereuses pour le territoire américain. Des mouvements logistiques américains récents, notamment les déploiements d'avions et de forces spéciales en direction de l'Europe, dont on s'est demandé à quoi ils servaient. Est-ce qu'ils allaient servir à c'est quoi, je crois que c'est Steadfast Art, l'exercice de l'OTAN de développement rapide sur la frontière orientale qui doit se tenir pendant les premiers mois de 2026, ou est-ce que c'était dû pour une projection en direction de l'Iran? Et il semble que le plus probable soit justement les opérations d'abordage en haute mer, bien que la protection russe semblait compliquer désormais toute intervention. Les derniers développements au moment où j'enregistre cette émission, c'est que l'armée américaine a confirmé l'arraisonnement du Bella 1. Dans un message publié sur X, le commandant des forces américaines en Europe a annoncé « Le département de la justice et le département de la sécurité intérieure des États-Unis, en coordination avec le département de la guerre, ont annoncé aujourd'hui la saisie du MV Bella 1 pour violation des sanctions américaines. Le navire a été saisi dans l'Atlantique Nord en vertu d'un mandat délivré par un tribunal fédéral américain, après avoir été suivi par le USCGC Monroe, navire des gardes-côtes. Moscou a naturellement dénoncé l'usage de la force par Washington contre un pétrolier sous pavillon russe dans l'Atlantique Nord. Le ministère des Transports russe a écrit « Le 24 décembre 2025, le navire Marinera a reçu une autorisation temporaire de naviguer sous le drapeau national de la Fédération de Russie, délivré conformément à la législation russe et aux normes de droit international. Aujourd'hui, vers 15h heure de Moscou, en haute mer, en dehors des eaux territoriales de tout État, les forces navales américaines ont abordé le navire et la communication avec celui-ci a été perdue. Conformément aux normes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le régime de liberté de navigation s'applique dans les eaux et en haute mer, et aucun État n'a le droit d'utiliser la force contre des navires dûment enregistrés dans les juridictions d'autres États. Et il y a eu aussi des rumeurs de saisie d'autres bateaux, je pense au moins un, dans les mêmes conditions. » Donc là, c'est véritablement un geste très agressif et très déterminé de Donald Trump face à la Russie, naturellement, qui se trouve une fois de plus humiliée. Et c'est encore une fois une affirmation de droit de juridiction américaine, impériale, puisque, comme pour aller arrêter Maduro, il s'agit d'arrêter des bateaux dans les eaux internationales, en estimant que bah, c'est nécessaire et ils ont le droit parce que c'est les États-Unis. Donc la situation se tend clairement entre les États-Unis et la Russie. Trump, comme je vous l'avais dit lors des précédentes émissions, on a toujours la même séquence. À nouveau, depuis le mois de novembre, Trump a tenté un modèle de paix. Après avoir rechigné, l'Ukraine a dit « bon d'accord, ça on est d'accord ». C'est finalement la Russie qui a bloqué, et à nouveau la Russie se prend des sanctions. Et ça, ce sont des sanctions et c'est même une humiliation. Dans le même temps, sous l'effet combiné des sanctions, la chute des prix, les attaques ukrainiennes et les contraintes logistiques, les exportations de pétrole brut russe ont fortement reculé ces derniers mois et ont atteint leur plus bas niveau de valeur depuis 2022. Et ça met Moscou sous une pression économique croissante, ce qui, à mon avis, accélère le fait qu'ils vont attaquer l'OTAN. Ça, j'en suis convaincu, je vous l'ai déjà dit. Cet hiver ou au printemps, à mon avis. Je pense que la décision a été prise en septembre. Je renvoie aux précédentes émissions que j'ai fait là-dessus pour vous l'expliquer. Si les menaces de Donald Trump avaient fonctionné avec l'Inde, il n'y a pas que New Delhi qui s'est détourné des hydrocarbures russes. Les exportations de pétrole ont nettement reculé en fait dans toutes les directions. Et ça s'explique aussi par la chute persistante des prix du brut russe et d'un ralentissement des volumes exportés, puisqu'en plus ils cessent d'exporter de l'essence puisqu'ils ont des problèmes de raffinerie. Un petit mot, parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de Milorad Dodik, le leader nationaliste serbe de Bosnie. Vous savez, il devait faire un référendum pour solliciter le soutien populaire et s'opposer aux décisions de la fédération de la Bosnie. Il semble qu'en fait il y ait renoncé, puisque c'était censé avoir lieu le 9 janvier et qu'il n'en a pas reparlé depuis octobre, donc probablement que finalement il a baissé les yeux. un petit mot sur le Mercosur ou l'Italie qui est le pays clé. Je vous en avais parlé lors de la dernière fois, de la dernière mission que j'ai faite, enfin du dernier bulletin. L'Italie donc, qui était la chance de la France de faire basculer, de faire bloquer le vote pour l'instant, finalement elle votera en faveur de l'accord UE-Mercosur et donc ça nous empêchera, ça empêchera la France de constituer une minorité de blocage pour s'opposer à la signature. C'est ce qu'a indiqué la ministre de l'Agriculture française, tout en disant que le combat continuerait, notamment devant le Parlement. Juste un mot peut-être sur la problématique autour du Groenland, parce que Donald Trump a dit qu'il allait s'en emparer, qu'il verrait ça sous deux mois. On verra ce qu'ils en font. Pour moi, ce qu'ils veulent, c'est l'acheter, et je suis à peu près sûr qu'ils vont y arriver à un moment donné. Je ne sais pas s'ils vont y arriver dans deux mois, mais j'ai beaucoup parlé du sujet, enfin j'en ai parlé un peu ces derniers jours sur X, vous irez voir ce que j'en pense sur le fond, parce que c'est plus des questions, c'est moins des questions d'actualité que de qu'est-ce que, en quoi ça concerne les Européens, est-ce que les Européens doivent vraiment s'en soucier, ou est-ce que le Danemark, est-ce que la politique personnelle, parce qu'en fait c'est le Danemark, c'est une possession propre du Danemark, ça n'est pas dans l'UE, puisque ça, les Groenlandais ont décidé de sortir de la communauté économique européenne avant qu'elle devienne l'UE, dès 1983, donc ça concerne plutôt le Danemark, et puis et en réalité les Groenlandais eux-mêmes sont majoritairement favorables à l'indépendance. La seule raison qui les pousse à ne pas demander l'indépendance tout de suite, c'est parce qu'ils ont peur que leur niveau de vie baisse, parce qu'en fait ils ont besoin des subventions de l'UE et du Danemark, ce qui montre qu'il n'y a pas un sentiment d'appartenance des Groenlandais terrible à l'Europe, d'autant plus que, bon, on passe notre temps à dire que la colonisation était un crime contre l'humanité, mais bizarrement, on parle très peu des politiques de stérilisation qui ont été menées dans les années 60 et 70, si je ne dis pas de bêtises, par les Danois contre les Inuits, n'est-ce pas, qui naturellement n'ont pas tellement de raison de vouloir rester. Donc l'autodétermination des Inuits, très bien. En revanche, le fait que l'Europe soit chargée d'aller empêcher les États-Unis d'essayer d'acheter les Inuits, ça je vois pas trop quel droit on a là-dedans. Mais ce n'est que mon opinion, c'est pas de l'information. Ensuite, pour terminer donc, par un petit tour vers l'Asie, la Chine a interdit mardi les exportations vers le Japon de biens à double usage qui pourraient servir à des fins militaires. Ça fait suite aux montées en tension des débats autour de Taïwan avec Tokyo. Le ministère chinois du commerce a déclaré dans un communiqué que les exportations de tels articles pouvant servir à la fois à des fins civiles et militaires vers les utilisateurs militaires japonais et tout autre utilisateur final susceptible de contribuer au renforcement de la puissance militaire japonaise sont interdites. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était donc le bulletin en accès gratuit, le premier du mois, mais c'est également le premier de l'année. Donc je vous souhaite une très bonne année. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats, et d'ici là, vous ne laissez pas faire.